Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Elle aurait pu avoir un destin à la Marie Chantal et rester dans le cocon de l'excellence, prôné par un environnement familial très tradit, très bien comme il faut, comme on dit. Une vie rythmée par les études, forcément brillante, et par la messe. Sauf qu'un jour, à l'église, elle a eu une révélation. Elle a fait une rencontre, avec un micro. Je faisais des pieds et des mains pour lire les épîtres de Saint Paul aux Corinthiens, dans le seul but de le tenir, ce micro. Amoureuse des mots, elle sera d'abord avocate, avant de se lancée dans le vide pour devenir humoriste. Alors aujourd'hui, quand cette femme engagée plaide, ça se passe devant des salles pliées de rire. Elle vient même de conquérir l'Olympia. Ce soir, Caroline Vigneault est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Vous êtes l'avocate qui plaide contre les femmes.
Voilà, c'est ça.
Il y a encore beaucoup d'inégalités.
Elles nous emmerdent avec leur hashtag #MeToo.
La parole est à Maître Vigneault qui doit nous convaincre que l'école est toujours ce socle de démocratie dont parlait François Rollin.
Mais je suis très étonnée parce que mon confrère utilise l'image du radeau de la Méduse, mais je vous rappelle qu'il flotte. Or, M. Brighelli est en train de nous expliquer, lui, qu'on est sur le Titanic.
Ce que j'aime chez Caroline Vigneault, c'est qu'elle est très déterminée, elle est très travailleuse. Elle s'est vraiment battue pour en arriver là.
On parle d'une femme, une mère de famille, qui abandonne son confort et qui fait en fait ce que beaucoup de gens aimeraient faire.
Ça m'énerve un peu quand on dit c'est une ancienne avocate. Non, c'est une vraie humoriste. On s'en fout qu'elle est avocate.
Une femme qui s'exprimerait brillamment à la tribune ne pourrait être qu'un homme.
Vous savez qu'un homme qui tape sa femme va prendre en moyenne entre 2 à 6 mois de prison avec sursis. En fait, ça veut dire qu'il ira en prison que s'il recommence. Enfin, ça veut dire que le premier essai est gratuit.
Moi, j'adore Louis de Funès, j'adore tous ces gens qui utilisent leur visage. De toute façon, il n'y a rien de pire, je pense que... Enfin, pour faire rire, il faut d'abord déjà se moquer de soi-même.
Le mercure monte, mais c'est fou. C'est le moment d'acheter. Où est le téléphone?
Léo, chérie, je parle de la hausse du mercure qui est dans le thermomètre et qui monte sous l'effet de la chaleur. Mais vous êtes un grand gosse.
C'est kitsch à mort, c'est ma petite chanson honteuse, c'est pour ça que je l'écoute dans mes écouteurs, personne ne le sait. Mais à chaque fois que j'entends, elle me donne une pêche de folie. C'est un truc qui s'appelle Ivanov, hein. Les nuits sans soleil.
Pour je sais, j'ai honte. Chanter, s'il vous plaît.
Oui, c'est Mira, tu ne sais pas que les nuits sans soleil que je vis loin de toi sont tristes pareilles.
Mira, tu ne sais pas.
J'ai l'impression de réaliser un rêve qui arrive à peu de gens. Hein. Moi, celle que j'ai la chance, c'est l'Olympia. Monter, jouer à l'Olympia, franchement, je me délectais de chaque seconde.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers. Je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux penser. J'ai perdu le sens de l'humour, depuis j'ai le sens des affaires.
Bonsoir et bienvenue dans Hors Piste, Maître Vigneault.
Bonsoir.
On a le droit encore, Maître
non.
Vigneault
non, non, j'ai le diplôme mais je n'ai plus le titre.
Ah.
Ouais, je suis omise. C'est une procédure où on demande à être désinscrit d'une liste, de la liste de l'ordre des avocats en fait.
Et alors elle est où?
La liste?
Non, la robe.
Ah, la robe, elle est pendue dans mon placard. Je l'ai ressortie pour Flashback, mon film.
Ouais.
Ouais.
Vous l'avez aimée, cette robe, ou pas?
Ah, je l'aime toujours autant.
C'est vrai? Pourquoi?
D'abord parce que c'est un des premiers objectifs que je m'étais fixé. Et quand j'étais en droit, etc., et je passais devant chez Bosque, c'est la boutique qui vend des robes d'avocat qui est en face du Palais de Justice à Paris. Et j'étais une jeune fille, je passais devant ces robes d'avocat et je me disais, un jour je la porterai, un jour je la porterai.
C'est un challenge.
Et c'est des mantras que j'ai souvent dans ma vie. Et après, quand je vais à l'Olympia, par exemple, des trucs comme ça, je passais dans les lettres rouges, un jour il y aura mon nom là, il y aura mon nom là. Et quand ça se réalise, en fait, vous vous rendez compte que vous réalisez votre rêve. Et c'est un moment de, vraiment de délectation profonde.
Mais ce métier de défendre, de plaider, c'est quelque chose vraiment qui vous plaisait ou c'est simplement la robe, le défi?
Non, en fait, ce qui me plaisait avant tout, je pense, c'est les mots. J'ai toujours été attirée par le fait de prendre la parole, de parler. J'ai adoré dans la langue française, c'est un nuancier. On a tellement de vocabulaire qu'on peut réussir à dire exactement ce qu'on veut à partir du moment où on cherche un peu les mots, on joue avec, on peut faire rire, on peut faire pleurer. Les émotions, tout passe par la parole. Donc j'aimais beaucoup ça. Et puis après, le challenge de défendre des gens, surtout quand vous êtes commis d'office, qui était mon cas beaucoup en pénal, vous défendez des gens que vous n'avez pas forcément envie de défendre ou vous n'adhérez pas forcément à leur cause. Et après, il y a la défense pour le bénévolat des associations. C'est dur à dire. Mmh. Et là, c'était la défense avec le cœur, l'envie, mais ça n'avait rien à voir avec le métier.
Mais est-ce qu'au fond de vous, vous saviez déjà que c'était bien, que ça vous plaisait, mais que c'était pas complètement votre vie?
C'est assez étonnant parce que je pense que j'ai toujours voulu faire ce que je fais aujourd'hui, mais avec l'éducation que j'ai reçue, je ne savais même pas que c'était possible. C'est-à-dire que même 3-4 ans avant que je décide de changer de vie, on m'aurait dit « tu vas devenir humoriste », j'aurais ri. Humoriste, de quoi, de qui, de
pourquoi rire? Maman va pas vouloir ou...
Non, mais même moi, c'est pas un métier. Non, je suis avocate, je suis très bien. Ouais. Il fallait faire des études, un métier. J'étais éduquée comme ça. On fait des études. Il n'y a pas une question. C'est pas ce que je vais faire ou pas. La question, c'est médecine, droit ou je sais pas, à l'époque, maths sup, pour faire ingénieur, les grandes écoles. Voilà, c'était ça la question.
Alors, changer de vie, c'est, on en a tous rêvé un jour. On veut tous aller ouvrir une chambre d'hôte ou je sais quoi. Et personne ou presque ne le fait. Vous, si. Vous l'avez fait, Caroline Vigneault. Racontez-nous le jour, le moment où vous avez pris la décision, le déclencheur, le déclic.
Alors, il y a pas vraiment un jour. Je pense que souvent, je prends cette image qui est assez violente, mais c'est comme le crash d'avion. C'est que plein de fois, il y a eu un petit truc, mais l'avion se crache pas parce qu'il faut qu'il y ait tous les éléments au même moment.
C'est pas une image très positive, hein, le crash d'avion.
Non, mais c'est quand même assez violent parce que c'est tous ces petits moments qui vont faire qu'à un moment donné, vous réalisez. Et l'élément le plus important, je pense, c'est la mort de mon grand-père.
Pourquoi?
Parce que il est mourant. Ouais. Il n'est pas mort, il est mourant. Donc je l'apprends. J'aime mon grand-père énormément. C'est quelqu'un qui était très important dans ma vie. Donc je pars dans les Vosges du jour au lendemain. J'annonce à mon patron, qui est avocat, que je pars. Et il me dit non. Et là je le regarde. Je dis vous pouvez me virer si vous voulez. Je pars une semaine. Il comprend que c'est la mort de mon grand-père, donc il me laisse faire. Et donc je vais passer une semaine dans les Vosges à lui tenir la main. Et c'est là que je vais avoir cette première réflexion étonnante. Où je me dis si moi ça m'arrive et que je suis mourante. Parce qu'on là, il luttait pas contre la mort, il l'attendait. Mmh. Et je me disais, qu'est-ce qu'on doit se dire? Et c'est là que j'ai une espèce de vision d'horreur en me disant, à ce moment-là, le pire, ça doit être de se dire, oh, j'ai une seule vie, je voulais en faire ça. Mais pas forcément un truc de dingue, mais même du violon, voyager à tel endroit, acheter un bateau, j'en sais rien. Mmh. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pourquoi? Parce que les ennuis, les impôts, les problèmes, tout ce qui, à ce moment-là, n'a plus aucune valeur au moment où vous êtes mourant, mais qui, à l'époque, quand ça vous a empêché de le faire, avait trop de valeur. Et là, je me suis dit, ça doit être horrible de se dire, comment j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça?
Donc ça réveille une urgence de vie, en fait.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que je parle souvent de la mort et que ça fait peur à plein de gens et je leur dis non, au contraire, plus tu sais que tu es mourant, plus tu sais que c'est, et on y va tous, il y a personne qui va en réchapper, et plus ça te donne envie de vivre.
Mais ça vous le réalisez après coup ou vous en parlez peut-être avec votre grand-père dans ces derniers instants?
Je peux pas en parler parce que j'ai une espèce de pudeur déjà de parler de la mort à quelqu'un qui est mourant. J'aurais aimé, hein, mais j'ai pas eu le courage. En plus, comme il était sous médicaments, enfin bref, ouais. Il avait fait pour vous dire la force de mon grand-père, il avait fait une grève de la faim parce qu'il était mourant à l'hôpital, il a fait une grève de la faim parce qu'il voulait mourir dans son lit chez lui. Et là, il l'a obtenu. Et donc, il est mort chez lui, dans les bras de ma grand-mère.
Et donc, en rentrant, vous vous dites, bon, bah, cette fois-ci, il est urgent de faire ce que j'ai vraiment envie de faire.
Non, mais je me dis, fais un bilan. Ouais. Ok, t'as tel âge, t'es en telle situation, t'es avocate, super. Est-ce que ça te plaît? Génial, je suis contente, tout va bien. Est-ce que ça suffit à remplir la seule et unique vie? Et là, bah non. Je veux pas avoir une vie et être juste avocate.
Et donc là, la décision est prise, en fait, au fond.
En fait, la décision, ce qui est dingue, c'est que les gens le savent pas, mais la décision, tout le monde l'a. Tout le monde le sait depuis longtemps. On se ment à nous-mêmes tous les jours.
Ouais.
Et quand on arrive à se regarder dans la glace pour se dire, allez, maintenant, je vais me dire la vérité, je suis toute seule avec moi-même, je suis malheureuse ou je suis heureuse? Et si on n'est pas heureux, il faut se dire, bah, ok, qu'est-ce qui me rend malheureux?
Mais il faut le courage d'y aller. À ce moment-là, vous rigolez, vous tremblez, vous êtes enthousiaste, vous êtes terrorisé.
C'est la gestion de la peur.
Ouais.
Là, la peur, c'est comme le trac. C'est génial. Si vous arrivez à bien le gérer, c'est un moteur extraordinaire qui vous pousse, qui vous donne l'énergie nécessaire. En revanche, si vous la laissez vous écraser, c'est infernal. Vous faites rien.
Et donc là, vous allez revoir votre patron et...
Et
coucou! Revoir, président!
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne?
Ben, c'est Pierre.
Au revoir, président.
Bon,
ça se passe vraiment comme
exactement.
Ça
bah, non, je dis pas au revoir, président, mais j'écris ma lettre de démission. Cette anecdote est réelle. Et il va me falloir 3 semaines. Le moment où je prends la décision, c'est une scène. Je joue sur scène au Zénith de Nantes devant 4000 personnes et je prends un énorme bide. Un bide intersidéral parce que je sais pas écrire bien un sketch et que c'est très mauvais. Mais là, je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Je suis dans le train de retour qui va mener au
bureau. Vous venez de vous planter
ouais.
devant 4000 personnes ouais. et vous dites « Ok, j'abandonne tout, c'est ce que je veux faire. »
Je suis dans le train de retour qui me ramène au cabinet et là, je suis avec des copains avec qui j'ai fait ce sketch. On était 4 sur scène, on s'est tous plantés. Et je leur dis « En fait, c'est ça que je veux faire. » Et il y en a un des 4, je sais pas lequel, qui va me dire « Bah, vas-y, fais-le. » Et cette phrase-là, vas-y, fais-le, au début, je fais n'importe quoi. Puis après, c'est vrai que je pourrais. Et c'est le moment, c'est dans ce train que je vais réaliser qu'on a le droit de faire un truc dingue dont qu'on ne sait pas. On peut tous le faire, mettre les mains sur le volant de notre vie et prendre un virage. Alors qu'on est formaté pour pas le faire. Ouais. On a fait des études, on gagne bien sa vie, on a un appartement, des impôts, des enfants. Donc on ne peut pas le faire, ça ne se fait pas, mais on a le droit. Et donc je rentre, j'écris ma lettre de dem et je mets 3 semaines quand même pour la poser sur le bureau de mon patron parce que à chaque fois que j'y vais, je mets la main sur la porte, je fais mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ça va pas bien, j'ai fait 7 ans.
Parce que là vous avez rien derrière, on est
rien.
D'accord à ce moment-là.
Rien. Ouais.
Et à la maison, on vous dit quoi? Vous en parlez
ou
pas?
Non, mais surtout pas. Si j'en parle, je sais déjà ce qu'on va me dire. On va me dire, Caroline est folle, calme-toi, Janine. T'as fait les aïe, elle a fait le zénith, ça y est, elle redescend plus. Donc non, je sais très bien, mais j'ai la conscience, je me vois ce que je veux faire et je sais très bien que ça se fait pas. Et qu'il faut pas le faire. Et puis à chaque fois que je me dis, il faut pas le faire, je dis, oui, mais je vais mourir, donc je peux le faire. Bah oui, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort? Au pire, j'ai fait 7 ans d'études, je suis, même plus. Mais, je suis avocate depuis 8 ans, je gagne très bien ma vie. Et au pire, quoi? Au pire, je me plante.
Oui.
Et je vais me dire, bon, bah, j'ai fait une belle connerie.
Alors, si on est humoriste et qu'on veut devenir avocat, c'est facile. Enfin, c'est facile. On connaît le chemin, on s'inscrit, on fait des études, etc. Quand on est avocate et qu'on veut devenir humoriste, on fait quoi? Il n'y a pas une école d'humoriste? On tape pas 36-15, je veux devenir drôle? C'est quoi le cursus? Une fois que vous avez posé votre lettre, vous êtes chez vous, vous avez fermé la porte. Très bien. Donc.
Non, il y a le jour 1, déjà. Une fois que le préavis, ça, et le jour 1 qui arrive, où je me dis, bon, bah, voilà, j'ai plus de boulot. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, je fais un truc très con, je vais aller au café de Flore. Ouais. Parce que je me dis, c'est là qu'il y a l'inspiration. Non, vraiment, la meuf se prend pour des grands auteurs, donc elle se met au café de Flore et je regarde les gens passer. Et j'ai déjà une première... un truc étonnant, c'est que je vois plein de gens dans la vie qui, à 3h de l'après-midi, qui sont dans Paris, alors qu'avant, j'avais une telle vie rangée que je m'en rendais pas compte. Et donc, je vais commencer à écrire, et puis je vais monter une petite boîte de prod avec une loi 1901, parce que je vais vouloir louer un théâtre, une association, pour louer un théâtre, parce que vous pouvez pas louer un théâtre comme ça doit être une prod, il faut voilà un minimum. Donc j'ai des copains avocats qui vont m'aider à monter ça. Je vais demander les licences qu'il faut. Je vais mettre mes économies dans cette boîte. Et puis je vais perdre beaucoup d'argent.
Ouais.
Mais ça c'était presque anticipé. J'avais vraiment une vision entrepreneuriale du truc. Donc je dis si c'est ce que je dis souvent aux gens quand je leur donne l'envie, c'est on peut pas demander aux gens de croire en vous si vous y croyez pas. Ouais. Faut déjà miser sur soi. Moi j'ai misé sur moi. Je me suis dit voilà le produit c'est moi. Je vais écrire des sketchs et puis je vais louer un théâtre.
Vous connaissez un peu de monde dans le showbiz à ce moment-là?
Personne.
Pas du tout.
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Et parmi les phrases que vous avez entendues, j'en ai relevé une. Vous êtes beaucoup trop jolie pour être drôle. Vous vous souvenez de cette phrase?
Oh que oui.
Qui vous a dit ça?
Un grand metteur en scène. En fait c'est la première fois.
C'est Jean-Luc Moreau.
Ouais. La première fois que j'ai un contact avec un professionnel dans ce métier, c'est lui. C'est pour une émission de télé qui passe en direct sur France 2.
Ouais.
Et je fais un sketch, et à la fin de ce sketch, ce monsieur, qui est donc mon premier contact professionnel, va me dire « Vous avez vraiment quitté le métier d'avocat pour faire ça ?» Je dis « Bah oui. » Il me dit « Bah vous y arriverez jamais en fait.
Ouais.
C'est même pas la peine, vous n'y arriverez. » Et là, c'est même pas qu'il me dit « Il va falloir bosser. » Il dit « Vous y arriverez jamais, vous êtes trop jolie pour être drôle. » Et il me dit « Le seul intérêt chez vous, mademoiselle, sont vos chaussures. Est-ce que ce sont de vrais loup-boutins ?» Et je prends ça, en plus, alors des millions de ses spectateurs, en plus, donc l'humiliation, tout ça, les gens qui se marrent. Aujourd'hui, ça passerait pas, mais à l'époque, on pouvait faire ça sans
c'était
problème.
C'était à quelle année, ça
je sais pas.
2010, par là, non?
Ouais, peut-être, 2010, je pense, c'est ça. Moi, il y a maintenant 12 ans. Et à ce moment-là, je joue dans une petite salle. Et j'oublierai jamais parce que j'ai pris le taxi, je pleurais en me disant, mais en fait, ce monsieur vient de me dire que j'arriverai pas. Il a peut-être raison. Et donc il va me mettre le doute. Je vais me dire, il a raison. Donc je vais jouer le soir même. Il y a le directeur du théâtre qui est un mec formidable, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'attend parce qu'il a vu l'émission en direct. Il sait. Il va me prendre dans ses bras. Il va me dire, Caroline, c'est rien, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant. Les 12 personnes qui sont dans la salle.
Parce que cette phrase, elle doit être beaucoup trop jolie pour être drôle. Il le dit à l'antenne.
Oui.
Ah, c'est pas en coulisses, c'est à l'antenne.
Ah non, c'est à l'antenne.
Ah ouais.
Devant Ruquier, devant tout le monde, devant le spectacle et devant les téléspectateurs. Ça va faire rire tout le monde. Et moi, je me sens humiliée, mais comme rarement dans ma vie.
Mais vous dites pas, je lâche tout, à aucun moment.
À ce moment-là, je me dis rien, je vais me prendre un autobus pleine tête. En plus, c'est une de mes premières télés. Ouais. Je me dis, c'est peut-être... Vous savez, quand vous faites de la télévision au début, vous dites, ça y est, ça démarre. Et là, on vient de vous dire, à la télévision, non seulement tu vas pas démarrer, mais tu vas jamais y arriver. Et t'as quitté un métier pour faire ça. Donc, je rentre chez moi après mon spectacle devant mes 12 personnes. Et là, je vais mettre en position fœtale pendant presque 3 semaines. Il m'a mis KO 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, je vais trouver l'énergie de transformer ça en truc positif et de me dire, en fait, je vais prouver à Jean-Luc Moreau que c'est un imbécile.
Vous l'avez revu depuis ?
Jamais.
Vous l'avez pas invité à vos spectacles ?
Non.
Il est pas venu ?
Non.
Il vous a pas écrit ?
Je sais même pas s'il s'en souvient, lui. Ouais. Ça, il débitait des trucs comme ça à la télévision. En plus, il devait être payé pour le faire. Je suis même pas sûre qu'il sait qu'il a fait du mal à des gens. J'en sais rien.
Comment on fait pour écrire un spectacle? Racontez-nous. Comment vous faites? Vous avez un petit carnet, c'est l'image du petit Moleskine.
J'en ai plein. J'ai des tonnes de Moleskine.
Vous êtes toujours au café de Flore pour...
Alors non, je vais plus au café de Flore. J'ai compris que ça venait pas de là. J'ai besoin de... J'adore écrire dans les trains d'ailleurs, c'est étonnamment. Je trouve que c'est le meilleur endroit. Mais, quand les gens me disent comment on fait pour écrire, je leur propose toujours une expérience, pour savoir si tu sais écrire, et moi je sais que tout le monde peut écrire. Il suffit de s'enfermer quelque part pendant un minimum entre 3 et 5 heures. Ce qui paraît long, mais c'est le minimum. Mmh. Parce qu'au début, pendant une demi-heure, une heure, il va rien se passer. Puis au bout d'un moment, ça va sortir. On va commencer à écrire, je sais pas, il fait beau. Ah bah oui, ça, il fait beau. Et ça va passer l'été. Et puis les vacances, puis ma grand-mère. Et puis, et puis d'un seul coup, ça sort. Et ce qui est étonnant avec l'écriture ou la créativité, moi, j'étais très créative, mais je le savais pas parce que, en fait, on m'a interdit de l'être. Et maintenant, je le sais. Et ce que j'aime, c'est quand ça sort, c'est des flots. On ne sait pas, on le maîtrise pas. Et quand ça arrive, eh ben, faut laisser flotter.
Donc vous jetez des graines et puis à un moment, paf, ça...
Ça part.
Ça part. Mm. Et quand vous dites vous enfermer, c'est couper du monde sans téléphone, sans rien ou...
ouais. Couper du monde. Ouais. Couper du monde, rien. Il faut rien. Parce que justement, avec soi, seul avec soi-même, c'est là où ça commence à sortir. Alors maintenant, c'est un exercice que je sais faire. Donc, je peux me mettre, me dire, là, j'ai une heure. Allez, je me plonge. L'exercice d'écrire un spectacle, en plus, il y a une angoisse en disant de quoi je vais parler. Ouais. Donc, le premier, c'est venu assez naturellement. Le changement de vie, c'était quand même essentiel. Et le deuxième...
C'est comme le premier roman. Il est souvent autobiographique et c'est les suivants qui sont plus compliqués.
Possible. En tout cas, le deuxième, comme le premier avait marché, on s'y attendait pas. Donc, j'avais peur de décevoir. Les gens attendaient. Et on avait créé une attente. Donc, je me disais, oh, si je suis moins bien. Et je trouve que ce spectacle est encore meilleur que le premier. Donc, j'en suis très fière. Et je dois aussi ça à une femme que j'ai croisée un jour dans un ascenseur et qui m'avait dit, mais vous êtes féministe, ça? Oui, je fais, oui, je suis féministe. Elle me dit, ah, pas moi! Moi, je veux qu'un homme continue à m'ouvrir la porte dans un restaurant! Et elle descend de l'ascenseur comme ça. Et c'est là que je me dis, tiens, ce serait peut-être bien de revoir les bases du féminisme. Parce que je vois pas le rapport avec la galanterie. Et c'est comme ça que je me dis peut-être qu'il y a un créneau là.
Alors il y a le spectacle pour faire rire et puis il y a le spectacle de la vie. Et vos deux vies qui s'entrecroisent. Écoutez ce que disait Robert Badinter d'une bonne plaidoiriste il y a quelques années.
Quand vous êtes là, alors, quand l'émotion monte, les jurés sont captifs, plus rien, plus un bruit, vous êtes intérieur vous-même. Ah, vous êtes en train d'évoquer la passion, la nuit, elle va, son amant, elle a le revolver. Et vous entendez... Vous vous retournez, vous voyez, le sympathique gendarme qui est en train d'essuyer une larme. Et vous dites, ça y est, cette fois-ci, ça y est. Là, ça ne peut pas tromper. Croyez-moi, le reniflement du gendarme, c'est le signe de l'émotion absolue.
Et c'est là qu'on dit qu'il y a des points communs, finalement.
Ouais. Non, mais l'émotion, alors en plus, il parle des assises. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des grands avocats comme M. Badinter, qui sont des gens qui vont changer la vie de la France. Hein. C'est grâce à lui qu'il n'y a plus la peine de mort. Donc, des avocats qui prennent le pouvoir et de modifier la loi, ça, je trouve ça dingue. Et qui ont une conviction forte. Et Badinter a plaidé à une époque où la peine de mort existait. Et il nous en avait parlé en disant, vous avez la chance de jamais connaître ça en tant qu'avocat. Parce que quand votre client, parce que vous avez la sensation d'avoir raté votre plaidoirie, monte à l'échafaud et qu'on lui coupe la tête devant vous parce que vous êtes là, vous vous sentez responsable de la mort d'un homme, il faut qu'aucun avocat ne vive jamais ça.
Mais ce qu'il dit aussi dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que il y a des codes. Il y a aussi, si on va chercher le gendarme, si on fait marrer le gendarme, on se met dans la poche et donc on se met peut-être toute la cour dans la poche.
Alors il y a peu de gendarmes dans mes spectacles. Il y a des agents d'incendie, mais des gendarmes très peu. Mais de toute façon, l'émotion, elle passe par les mots et le but est différent. Quand vous plaidez, vous savez ce que vous voulez convaincre. Convaincre des jurés d'une position de ce que vous dites. Et moi, aujourd'hui, je veux faire rire et en loose dé convaincre.
Oui. Votre spectacle est une longue plaidoirie, mais on en reparlera tout à l'heure. C'est flippant de devoir faire rire ou pas?
Je sais pas, parce que j'ai toujours aimé ça.
Ouais.
Mais c'est flippant, évidemment, et c'est pour ça que je pense que j'aime l'adrénaline, et c'est pour ça qu'on va la chercher. Mais une fois que ça arrive, une fois que vous prenez le rire, c'est une espèce de vague qui vous percute sur scène, et c'est comme un tennis, je prends cette image, parce que du coup, on renvoie la balle avec une autre vanne, on reprend une balle au retour.
Et c'est parti.
Et c'est parti.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe sur scène quand une vanne fait un flop?
Ah bah c'est là on chute.
C'est vrai.
Ah oui, il faut arriver aujourd'hui à avoir le recul nécessaire pour savoir que d'abord un c'est pas grave, on va s'en remettre. Deux, on peut se moquer de soi-même en disant mais ça maintenant on le fait assez facilement parce qu'il y a plus de quatrième mur, c'est-à-dire qu'on communique avec le public. Donc on peut le dire ou bah celle-là apparemment ça marche pas, je la garde ou pas. Bon, je la retente demain. Moi ça m'est arrivé, je me souviens une époque, je cherchais une vanne sur mes seins. Et parce que il y a tout ce truc, alors aujourd'hui il y a quand même ce mouvement MeToo qui permet de libérer. Moi je suis plus soutien-gorge, ça choque les gens encore et c'est un fer de lance, mais je cherchais quelque chose là-dessus et je fais une soirée avec des copains et on s'est assez arrosé hein, faut dire la vérité. Et j'ai un copain qui dit "Ah, j'en ai une." Et tu fais Rasputin bonnet M. Et là, on explose tous de rire. Mais tous, morts de rire, on pleure et tout. Et je me dis, bon, je l'attends demain. Bon, bien sûr, je l'attends le lendemain. Désert intersidéral, il se passe rien.
Parce qu'ils n'avaient pas bu dans la salle.
Parce qu'ils n'avaient pas bu, évidemment, j'avais pas encore compris. Et donc voilà, il faut s'en rendre compte, s'en amuser. J'ai raconté l'anecdote, du coup, là, avec cette anecdote, j'ai fait rire en disant comment je vais m'humilier. Donc voilà, ça fait pas rire, c'est pas grave. Et puis, il faut chercher. J'assimile souvent le rire au maths parce que c'est très précis, le rythme, la vanne. Trouver la distorsion, trouver l'angle. J'ai envie de parler, par exemple, ce qu'on a entendu tout à l'heure, les femmes battues, chercher un angle sur les femmes battues, passer par les chats. J'avais trouvé que c'était une bonne idée parce que ça me faisait rire. En fait, je disais, il y a un homme qui avait pris un an prison ferme parce qu'il avait tapé un chat. Et je disais, quand on est une femme et que un mec prend 6 mois. Donc, donc il vaut mieux quand on appelle la police, dorénavant, mesdames, miaou, miaou. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des gens.
Il n'y a jamais rien de gratuit hein, dans ce que vous faites sur ça.
Jamais.
Jamais.
Mais des gens qui comprennent pas. J'ai des gens qui m'ont insulté en disant que je défendais pas la cause animale et que je disais qu'il fallait taper les chats.
Ah oui, et forcément. Oui. C'est marrant parce qu'on sent chez vous, Caroline Vigneault, une fragilité qui est l'égale de la force que vous dégagez. Il y a vraiment les deux. C'est la flip tranquille ou la force inquiète, je sais pas. Mais il y a quelque chose de ça, non?
Mais très peu de gens le voient parce que j'ai appris à cacher, à pas montrer. Je pleure, mais je me cache. Donc il y a des gens qui pensent que je suis forte et indéboulonnable. Et c'est rare que les gens perçoivent ça. Je suis très mal à l'aise.
Pourquoi vous êtes mal à l'aise?
Parce que j'aime pas parler de moi. Parce que je me dévoile très peu.
C'est un truc d'éducation, ça?
Ouais. Ouais. Évidemment. Mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait. Jamais. C'est un drame de ma vie, ça.
Ouais. Moi, je suis venu vous voir à l'Olympia samedi dernier, salle bondée, il y avait des caméras partout parce qu'il y avait une captation, le spectacle était enregistré. Et là, bing! Vous vous trompez sur le texte, vous trompez sur une date, 72 ou 75.
Non, j'ai dit 75 ou 72, voilà. L'ouverture de Polytechnique.
Ouais. Ça a donné un très très bon moment, honnêtement. Tout le monde se marrait dans la salle, c'était très drôle. Et je me suis dit, mais elle doit être terrorisée dans sa tête.
Je peux pas, je sais que je suis partie en impro, ça a duré, j'ai demandé après, ils m'ont dit ça a duré 12 minutes, donc c'est long 12 minutes. Hein.
Bon, on les sentait pas passer.
Moi, je sais pas. En
fait, moi, je me suis dit, mais est-ce qu'elle va réussir à reprendre, en fait?
Il fallait. De toute façon, j'avais pas le choix. Et effectivement, il y a une captation, donc ça ne sera pas au montage.
Et pourquoi pas? Pourquoi pas en garder une partie, au moins?
Oh, je sais, c'est parce que j'avais envie que ce soit parfait.
Mais c'est parfait. Ça fait partie de la vie. C'est parfait.
Non,
mais
ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'en plus, j'aurais pu très bien, comme c'est filmé, mais en plus, la date pour l'Olympia s'affichait, sur le fond de l'Olympia. Ouais. Donc, au moment où je dis en 1975, et je me rends compte, puisque ça fait, je connais la date par cœur, donc je sais que je me trompe, et je ne sais pas pourquoi, mon cerveau bug, et je sais qu'il y a 72 qui vient de s'afficher au fond. Donc bien sûr, je le dis, et voilà, il faut le dire, et ça fait rire les gens, et puis on reprend. Et quand la seule chose dont je me souviens, c'est qu'au moment où je dis, bon, on va la refaire, vous faites comme si vous la connaissiez pas, et là, tout l'Olympia fait, oh, et je regarde les gens, je me dis, là, vous pensez que ça fait naturel.
Au montage, ça pouvait pas passer, parce qu'on se demandait pourquoi d'un coup la salle se serait mise à rougir comme ça. Vous avez toujours l'impression de déranger ou pas?
Toujours, hein? J'ai un gros syndrome de l'imposteur.
Pourquoi? De vous excuser d'être là, toujours
Bah parce que j'ai pas de diplôme. Ouais. Pour dire que je suis comédienne, j'ai pas fait des grandes écoles, j'ai pas fait le conservatoire. J'ai un diplôme qui dit que je suis avocate. Je me suis jamais sentie imposteur en tant qu'avocat, parce que j'avais la preuve, j'avais travaillé, j'avais fait les examens, j'avais passé les diplômes, les machins. J'ai eu mes examens, j'ai eu mes concours. J'étais fière, j'avais la robe.
Ouais. Mais là, non. Vous cochiez les cases, quoi.
Je cochais toutes les cases, les unes après les autres, comme une bonne élève.
Et pourtant, là, aujourd'hui, et il y a quelques jours, vous avez fait l'Olympia, Caroline Vigneault. J'ai bien dit l'Olympia.
Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Je suis un homme. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Bienvenue, j'espère que nous allons passer une bonne soirée ensemble ce soir.
Dalida, Aznavour, Zazie, Edith Piaf, Jacques Brel, Johnny Hallyday et donc Caroline Vigneault.
Ouais.
Là, je vous ai vu presque vous cacher là en écoutant ces extraits.
Bah oui, parce que c'est, je suis assez émue parce que quand j'étais dans cette petite salle et j'ai des copains qui venaient me voir alors que j'avais mes diplômes d'avocat et qu'il y avait personne et que personne n'y croyait et que je disais à chaque fois, je disais un jour je serai à l'Olympia et je voyais dans le regard des gens cette espèce de mais est-ce que personne ne lui dit qu'elle est folle et que ça elle va pas y arriver et j'avais une foi absolue. Je disais mais je sais que j'y arriverai.
Et c'est quoi qui l'emporte aujourd'hui? Quand vous avez vu votre nom sur la façade, les lettres rouges, c'est le goût de la revanche ou le plaisir d'être là?
Ah non, alors la revanche, ça sert à rien.
Ouais.
Moi, j'en veux même pas, même aux gens qui m'ont fait du mal, etc. Je perds pas une seconde de mon énergie pour ça. Je reste dans l'énergie positive. Et non, et de le voir là, c'est juste de me dire, meuf, bravo.
Ouais. Voilà.
J'aime bien me parler. Des fois, j'essaie de me parler quand j'étais jeune. Je me souviens des traumas que j'ai vécu enfant ou des parce que comme j'étais toujours été un peu différente, un peu turbulente, un peu et j'ai beaucoup souffert de ce qu'on me disait, que j'étais pas une fille bien, que j'étais trop, que je faisais mon intéressante et j'arrivais pas à comprendre en quoi je dérangeais. Je savais que je dérangeais mais je savais pas pourquoi et je trouvais pas ma place.
Ouais.
Et je sais que si j'étais née dans une famille plus créative, plus artistique, moi on m'a jamais emmenée au théâtre, c'était pas du tout le truc, j'aurais été sûrement plus dans mon élément.
Ouais.
Et
en fait, vous avez dû trouver votre chemin toute seule.
Ah, complet.
Ouais.
Et le plus dingue qu'il faut savoir, il faut pas avoir peur, c'est qu'avant de pouvoir construire son chemin, il faut arriver à déconstruire celui qu'on vous a construit.
C'est marrant parce que depuis le début de cette émission, vous faites passer des messages. Comme si les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent se disaient, moi aussi je veux changer de vie. Vous dites, non, faut pas avoir peur, faut pas
suicider,
faut pas.
Parce que j'aurais aimé, moi, entendre ça à ce moment-là. Et c'est pour ça que sur scène, je le dis tous les soirs, je dis voilà, je suis la preuve vivante que c'est possible. Parce que je connaissais personne, ni en tant qu'avocat, ni en tant qu'humoriste, ni voilà.
Mais tous ces artistes là qu'on vient d'entendre et tous les autres, vous avez pensé à eux quand vous étiez dans la loge, à l'Olympia, ou quand vous êtes dans votre lit le soir et que vous cherchez le sommeil ou pas?
Évidemment. Et chaque pas que j'ai fait entre les coulisses et le milieu de scène, c'est à ce moment-là, je marchais, je me disais, comme Edith, comme, voilà, comme les Beatles, comme tout ça. Et c'était très fort.
Il est habité, ce lieu, vraiment?
Ah, il est magique. Ouais. Et j'ai fait des plus grosses salles. L'Olympia, c'est 2000 places. Mmh. Ce qui est gros, mais ce qui est pas non plus dingue. Les Zénith, c'est bien plus gros. Mais cet endroit-là est habité. C'est-à-dire que vous ressentez les énergies de tous les gens qui sont venus.
Vous croyez aux esprits?
Je sais pas si les, oui, enfin, si, je pense que les esprits. Je crois aux énergies, oui. Et je crois, ouais, aux anges gardiens, tout ça. Ouais. Je les ressens.
Ouais. Qui vous a donné envie de faire rire? Qui sont vos modèles?
Mon modèle, c'est Jacqueline Maillon, évidemment. Ouais. Alors bon, si
on entendait dans Pouic Pouic,
ouais,
dans le portrait tout
exactement.
À l'heure.
S'il y a des gens de moins de 40 ans qui nous écoutent, bon, ils disent qui?
Ils savent pas non plus qui est Gérard Majax.
Non, c'est vrai. Mais moi, je sais. Donc Jacqueline Maillan, parce que c'est une des premières qui va me donner l'autorisation. Elle le sait pas évidemment, elle l'a jamais su, mais cette femme va me faire beaucoup de bien. C'est mon grand-père, le fameux, très strict, etc. Va mettre un soir dans une VHS dans les Vosges, c'est Croque-Monsieur. Et je vais voir une femme qui en fait des caisses et qui fait rire mon grand-père, mes parents, etc. Et là, je sais que j'ai une espèce de révélation. Je me dis, on a le droit d'être comme ça. Elle a le droit. Moi, j'ai pas le droit, mais elle peut. Et on peut faire rire. Et par le rire, on peut décoincer, je sais pas comment on peut dire, des gens qui m'ont pas l'air drôle le reste du temps.
Et la famille dans tout ça, la famille, Caroline Vigneault.
Tu es de ma famille. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens.
C'est qui votre famille aujourd'hui ? C'est votre famille biologique, c'est la famille que vous ressentez, pour reprendre les mots de Goldman.
Ouais, la famille, je pense que c'est chacun de la déterminer. Évidemment, mes enfants, numéro un, qui me comblent, même si ça, c'est compliqué hein, d'avoir une vie comme celle que j'ai et d'être seule avec deux enfants, mais ils sont merveilleux et je pense que là où il y a de l'amour, de toute façon, enfin, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Que voilà, que c'est, il est la famille, ça peut être ses amis, ça peut être des gens avec qui on bosse, qui vous aident, qui vous soutiennent. C'est pas forcément le sang en fait.
Ouais.
Parce que le sang, on peut être déçu par le sang.
Et votre maman, elle est venue vous voir ou pas?
Ouais.
Alors?
Bah, maman, elle a eu du mal au départ parce que évidemment, elle a eu très peur. Vous savez, je comprends, hein, maman en plus, elle a des références d'un autre temps, donc des études, l'indépendance financière pour une fille, c'était quand même quelque chose. Donc si jamais elle meurt, je suis avocate, tout va bien. Faut pas qu'elle écoute cette émission, mais il y a aussi le côté, ma fille est avocate, elle est dans un gros cabinet américain, donc tout va très bien. Et ma sœur était dentiste, enfin elle est toujours d'ailleurs dentiste, donc tout va très bien. Ouais. Elle a réussi aussi son rôle de mère, d'élever des filles bien.
Ouais. Et maintenant, quand elle présente ses filles, elle commence par dire ma fille est dentiste et après elle parle de l'autre.
Non, plus maintenant. Non, maintenant ça va.
Elle est fière de vous ou pas? Votre famille est fière de vous aujourd'hui?
Je crois, oui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je porte le nom de ma famille, évidemment, c'est mon nom, c'est le nom de mon père, hein, Vigneault. Et il est porté par une grande branche de mes cousins, etc. Et quand j'ai envoyé, parce qu'on a des WhatsApp, c'est quand même magique ça maintenant, la devanture de l'Olympia, ils l'ont dit, quoi. Ça leur faisait quelque chose de voir aussi leur nom. Comme ça.
En fait, on peut échapper à son milieu ou pas? Vous avez échappé à votre milieu ou pas, vous?
Ah oui, complètement.
Ouais. Vraiment?
Ah, mais dès que je me retrouve plongée dans ce milieu catholique, aujourd'hui, j'ai de l'affection pour ce milieu. Mais il m'a fait tellement de mal. Ouais. Tellement de mal. Vous savez, je faisais des rallyes, moi. Alors, pour les gens qui savent pas, les rallyes, c'est soirées mondaines, très guindées, les parents sont là, où on invite l'aristocratie, invite la bourgeoisie, etc. Et donc, ma sœur et moi, nous étions invités. On faisait partie, nous, de la petite bourgeoisie, donc on n'avait pas trop d'argent, donc on achetait des robes un peu, dans des dépôts vents, des trucs, mais on s'en sortait, ça se voyait pas trop. Et puis, on avait des belles invitations comme des mariages, hein. C'est des trucs chics, on danse le rock. Moi, je danse hyper bien le rock'n'roll versaillais. Et puis, un jour, l'invitation est arrivée. Et d'abord, il y avait écrit Mademoiselle Emmanuelle et Caroline Vigneault. Et là, il y avait écrit Mademoiselle Emmanuelle Vigneault. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai su que j'étais virée du rallye.
Ah.
Ils invitaient ma sœur, mais plus moi. Parce que j'étais trop. Je faisais trop de bruit, je riais trop fort, je dansais trop fort. Et c'est les parents ne voulaient pas que leurs enfants traînent avec moi.
Vous dites parfois à vos enfants, vous faites trop de bruit. Je crois que vous l'avez beaucoup entendu, ça. Hein. Caroline, tu fais trop de bruit.
Tu fais trop de bruit. Chut, Caroline. Jamais. Ouais. Non, mais moi, je veux même pas que mes enfants fassent d'études. Moi, je veux qu'ils fassent bien ce qu'ils veulent.
Ouais.
C'est-à-dire que même s'ils me disaient, je veux faire polytechnique, ça me créerait presque une angoisse. J'aurais peur qu'on les formate, qu'on leur donne j'ai eu tellement de mal à briser les murs de cette boîte que je souhaite que de ne mettre aucune boîte à personne, en fait. Pour que chacun mette la sienne.
Vous les emmenez pas à la messe?
Je les ai déjà emmenés, si, parce que j'éprouve beaucoup d'apaisement quand je rentre dans une église. Je trouve ça très agréable. Après, j'ai du mal avec, les liens de la religion avec les femmes, hein, parce que quand même dans la religion catholique, il y a quand même le choix, c'est la Vierge Marie, celle qui enfante sans même avoir de relations sexuelles, ou la prostituée Marie-Madeleine. Donc bon, voilà. Mais la religion, je pense qu'elle fait beaucoup de bien mais c'est quelque chose qui doit être personnel.
Ouais.
Et si on pouvait la garder chacun pour soi, je pense que la planète irait mieux.
Ils ont droit aux gros mots ou pas? Parce que vous en dites pas mal, vous, sur la scène. Hein.
J'adore les gros mots.
Ouais.
Mais en fait, les gros mots, Par exemple, prenons un exemple très clair. Quand je parle de la différence salariale entre les hommes et les femmes, je dis que j'ai embauché en même temps qu'un copain. Et c'est vrai, cette histoire est vraie. Et quand je réalise que, alors qu'on a le même diplôme, qu'on est dans le même cabinet, qu'on est embauché en même temps, il gagne 900 euros de plus que moi, je me dis, tiens, je connais enfin le prix d'une bite.
Voilà. Là, je pense à votre mère, là, d'un coup. Je sais pas pourquoi.
Eh ben, quand je dis le mot bite, en fait, je vais créer un malaise dans la salle. Les gens sont choqués, on va dire, oh, en plus, ils attendent pas, parce que, voilà. Et le malaise est ce que je vais créer, l'électrochoc avec ce mot. C'est ce que moi, j'ai ressenti.
Oui.
Quand j'ai eu que j'avais 900 euros de moins. Je veux essayer de faire des sensations, donc, en utilisant ces mots à bon escient, je vais créer un choc, et je sais pourquoi. Et ça va bien se passer, n'ayez pas peur.
Quand on ose dire les choses comme ça, quand on ose regarder en face, quand on ose ne pas tourner autour du pot, est-ce qu'on fait pas peur aux hommes ?
Ah bah, je pense que si. Hein.
Ouais.
Non mais ça c'est terrible parce que
Est-ce qu'ils se disent pas, oh là là, elle je vais pas y aller parce qu'elle me plaît, tout ça, mais oh là là.
Non mais je me fais jamais draguer moi.
C'est vrai ?
Ah non mais je suis célibataire depuis 6 ans.
Mais c'est un choix, à ce niveau-là.
Oui, c'est un choix parce que j'ai pas peur d'être seule. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir un mari. J'ai pas envie d'avoir un compagnon. J'aimerais avoir un partenaire.
Ouais.
Mais comme une véritable partnership, une collaboration, un partner in crime, comme on dit. Parce que pour du plus, pour du bonheur, pour de la joie, pas pour un besoin.
Ouais.
Je fais pas partie de ces femmes qu'on a éduquées avant, où on avait besoin de réussir notre vie. C'était, mais d'ailleurs comme les contes que j'ai eu enfant, la princesse, ça se termine au moment où ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Parce que ça y est, elle a rempli son rôle, elle s'est mariée. Le reste de sa vie n'a plus aucun intérêt, elle va élever ses enfants. Le but d'une femme, c'était de se marier bien, de faire un beau mariage. Donc c'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand j'en parle avec mes amis, vos congénères, je leur dis, et les filles libres comme moi, ce qui est chouette, c'est que quand on se met avec un homme, c'est pour une seule et unique raison. C'est qu'on en a envie, c'est qu'on vous aime et que vous nous plaisez, qu'on a envie de vous aimer. Et qu'il n'y a pas d'autre raison.
Il n'y a pas de business plan derrière.
Il n'y a rien.
Ouais.
Aucun.
Vous êtes une femme amoureuse dans la vie, de manière générale ou pas?
Ouais.
Ouais.
Mais moi, je suis une femme passionnée, c'est encore pire.
Ouais.
C'est, j'ai besoin de ressentir. Il n'y a rien de pire pour moi que de rien ressentir. Donc, je m'enflamme, je pleure, je monte, je vis. Et en plus, j'ai toujours cette deadline de la mort qui à chaque fois.
Ça vous obsède quand même, hein?
Oui, parce que je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas me dire, là, si je me dis, je ne sais pas quand ça va arriver.
Ouais,
plus tard possible, évidemment. Et je veux vraiment ne pas perdre de temps. Donc si, par exemple, pendant une heure, je m'ennuie, maintenant, je vais faire quelque chose.
Mm.
Je vais profiter de cette heure-là. Et surtout, j'adore vivre en conscience. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, j'éprouve un bonheur majestueux d'être là avec vous. Et de tous ces moments qu'on vit, les moments de plaisir, hein, d'entendre ce que vous me faites écouter, le partage qu'on a, ça va s'arrêter dans une heure, ce sera fini. Et je vais me le garder quelque part en me disant, à ce moment-là, j'étais bien.
C'est-à-dire que vous avez appris à profiter de l'instant dans l'instant.
Je vais vous dire un truc très vrai, et je vais le dire à tout le monde, mais c'est très important. On est malheureux que dans le futur ou dans le passé. Dans le futur, parce qu'on a peur de ce qui va arriver ou pas arriver dans le passé, parce que c'est la nostalgie, et rarement dans le présent. Dans le présent, on est rarement malheureux. Voilà, on va en avoir un drame, mais dans le présent, on peut être bien. Et après, ça va devenir de la nostalgie, donc vivons-le maintenant.
Eh bien, on en profite, on va en profiter en musique, puisqu'on va écouter votre choix musical dans Orpi. Vous avez choisi qu'on entende ensemble Respect.
Ouais, j'adore ça. D'Aretha
Franklin.
I Piste, Thomas Soto.
Caroline Vigneault est dans Hors Piste sur France Inter. C'était Respect d'Aretha Franklin. Vous avez déjà eu l'impression qu'on vous en manquait, vous, de respect ou pas?
Oh bah oui, en tant que femme, très souvent.
Ouais. Ouais.
Souvent les gens me disent pourquoi t'es féministe. Souvent je dis bah d'abord parce que je pense que je suis une fille. Et je comprends moi qu'un homme ne le comprenne pas parce que la plupart des hommes sont des mecs bien donc ils s'en rendent pas compte ce que c'est que de marcher dans la rue avec de la musique et puis dès qu'on croise un mec un peu chelou on éteint la musique pour vérifier qu'il vous suive pas que vous vous êtes fait agresser plusieurs fois dans votre vie ça crée de l'angoisse. Mmh. Mais cette chanson elle est dingue parce qu'elle fait partie de ces musiques où même si vous allez pas bien vous l'écoutez vous allez voir votre épaule va bouger elle va vous mettre une énergie positive et en plus ce qui est drôle c'est que j'ai pendant des années je l'ai chanté en mode je savais même pas qu'en fait elle épelle le mot respect.
Ouais.
Et non seulement elle épelle le mot respect mais en plus elle parle des femmes qui se font taper, des femmes qui se font voler leur argent etc. d'une époque qu'elle a connue évidemment où elle s'est fait évidemment elle frapper et voler tout son pognon etc. Donc elle a fait cette chanson qui est d'une force absolue.
Alors vous le disiez, vous êtes féministe, humoriste et féministe, c'est la colonne vertébrale de votre spectacle mais et merci, vous terminez votre spectacle en nous disant à nous les hommes que vous nous aimez.
Oui. Voilà. Bah parce que il y a trop d'hommes qui se sentent rejetés par ce mouvement et alors ce qui est drôle c'est que il y a plein de femmes qui n'acceptent même pas, qui disent ouais bah c'est pas tant pis pour eux. Je dis non, moi je fais jurisprudence Nelson Mandela. Nelson Mandela, il sort de prison, il devient premier président noir d'Afrique du Sud, et il pourrait. Et les blancs ont peur en disant il va nous massacrer, on lui a tellement fait de mal, il pourrait. Et il va dire non, on va vivre ensemble.
Nous, on n'a pas organisé d'apartheid non plus. Hein.
Ah, c'était un vrai apartheid.
C'est vrai.
Mais les femmes n'avaient pas le droit de voter, les femmes n'avaient pas de passeport, les femmes ne pouvaient pas sortir du pays, les femmes ne pouvaient pas travailler. Enfin, c'était pareil.
Mais parfois, on se dit, moi, je suis féministe simple, c'est-à-dire que ouais, je passe l'aspirateur, j'adore passer l'aspirateur, et je me dis que c'est ni grave, ni extraordinaire, ni je sais pas quoi, c'est normal. Voilà, c'est le féminisme du quotidien, comme peut-être vous êtes masculinisme si vous faites des choses qu'avant on disait c'était réservé aux mecs. Je pense qu'il y a
oui, on m'a dit que c'était un garçon manqué toute ma jeunesse.
Ouais, est-ce que vous comprenez que parfois on en est marre des exaltés du féminisme, qui comme si on devait avoir une espèce de permis de bonne conduite.
Mais évidemment.
Comme, tous les hommes sont comme si, on dirait jamais tous les noirs sont comme si, tous les juifs sont comme si, tous les catholiques sont comme ça.
Mais c'est infernal. Mais dans chaque mouvement, il y a des extrêmes. Dans tous les mouvements. Et aujourd'hui, on a un coup de balancier parce que je pense que c'était trop loin, trop longtemps. Et donc, il y a effectivement des femmes extrêmes. Je les connais. J'ai parlé avec elles et je me suis d'ailleurs bien écharpée parce que je ne peux pas entendre tous les hommes sont des prédateurs. Mmh. Ça m'est insupportable. J'ai deux garçons, j'ai un papa, j'ai des amis. Je ne peux pas entendre ça. C'est faux et c'est n'importe quoi. Après, je comprends pourquoi ces filles-là, parce qu'elles, pour la plupart, ont vécu des agressions graves, donc sont dans un espèce de traumatisme. Donc pourquoi pas ?
Qu'on comprend.
Qu'on peut comprendre. Bien sûr. Mais qui n'excuse pas et qui permet pas et qui n'aide pas la cause en fait.
Mais on est obligé d'être et ces femmes-là ont été obligées d'être un peu radicales pour faire bouger les lignes. Ça a quand même bougé là ces dernières années. Ça va mieux, non ?
Bah bien sûr. Ouais. Ma grand-mère n'avait pas le droit de vote. Ouais. Deux générations. Regardez où on en est. Le problème, c'est que bon d'abord il y a encore des combats, notamment le salaire. Et puis aujourd'hui, pour moi encore plus important que le salaire parce qu'il est vital, les violences faites aux femmes. On est dans un pays arriéré. Genre, je vois ce qu'ils ont fait en Espagne. Ils ont réussi en l'espace de 3-4 ans, avec des mesures draconiennes, de faire vraiment diminuer les féminicides. En France, encore aujourd'hui, tous les 2 jours et demi, dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Aujourd'hui, vous tuez votre voisin, vous prenez plus cher que si vous tuez votre femme. Parce qu'il y a cette espèce d'imagerie de « il aimait un drame familial,
crime passionnel.
Ouais. » On trouve ça presque beau.
Oui.
Vous voyez, Bertrand Cantat, c'est presque beau qu'il assassine une femme à coups de poing. Voilà, alors que de tuer son voisin à coups de pelle, ça c'est grave, ça c'est pas bien.
Oui.
Mais sa femme, bah oui, mais elle voulait le quitter, le pauvre. Il était malheureux. Il y a un côté romanesque. Non, il y a rien de romanesque. Mmh. On a tué un être humain. En plus, ça va détruire la vie des enfants parce que souvent, quand vous avez votre père qui tue votre mère, autant vous dire pour votre construction personnelle, on est quand même sur de la haute voltige.
Oui.
Donc non, ça c'est un vrai truc que j'aimerais qu'il se règle avant que je meure en France.
Arrêtez de nous parler de votre mort. S'il vous plaît, on veut vous garder. Le féminisme, c'est aussi le sujet de votre film, Flashback, qui est sur oui. Prime Video. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous enfermer là-dedans un moment ? Ce sera quoi l'étape d'après ? Vous allez faire toute une carrière d'humoriste sur cette thématique-là ou vous allez changer ?
Alors,
C'est pas un reproche, une question.
Non, c'est même pas. Alors, évidemment, le prochain spectacle, je commence déjà à y réfléchir, ça parlera pas de ça. Je pense que le thème, j'en ai parlé. Je suis féministe, c'est pas juste pour le spectacle. Je suis féministe dans ma vie. Mmh. Et c'est un combat que je mène. Et donc, j'ai voulu utiliser le rire pour aider. Donc, je l'ai fait. Et le spectacle, la différence avec le film, c'est que je voulais que le film puisse être vu par les enfants.
Mmh.
Et que je voulais voudrait, et alors c'est le cas, hein, il est montré dans les écoles, donc pour moi c'est le bonheur absolu, c'est que les enfants découvrent par le rire qui sont Olympe de Gouges, Nicolas de Condorcet, voilà, des grandes figures du féministe qu'on ne connaît pas forcément et qui ont été oubliées de l'histoire. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ce sont des grands, des personnes magnifiques, Georges Sand. Donc non, je le dis, Georges Sand n'est pas un homme, parce que la plupart des gens pensent que Georges Sand est un homme, c'est quand même étonnant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce film, pour l'ouvrir aux enfants.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans vos spectacles, c'est qu'on apprend des choses. C'est qu'on apprend des choses, ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a des matins... Vous avez déjà regretté votre choix? Vous êtes dit...
Non, pas regretté. Il y a des matins où c'est plus dur. Il y a des matins où on se sent seul, où on sort de scène et alors qu'on vient de prendre... C'est la violence de ce métier. On vient prendre de l'amour du public, mais eux, ils rentrent avec leur voiture, leur famille. Ils sont... Voilà. Et puis vous allez dans votre hôtel, vous êtes seul et vous vous dites oh, « Pourquoi je fais ça ?»
Il est dur le 3h du matin d'après-spectacle?
Ouais. Ouais, il est très dur. Souvent. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui arrêtent les tournées pour ça, parce que c'est dur. Et je crois qu'il est peut-être, étonnamment, ce que je vais dire est complètement misogyne. Peut-être qu'il est encore plus dur quand on est une femme. Je sais pas pourquoi. Mais il y a une espèce de... Je sais pas, c'est débile ce que je veux dire, parce que j'ai autant de liberté qu'un homme, mais j'ai la sensation que je peux m'autorise pas les mêmes choses, et que je suis plus fragile au manque de ma famille, de mes amis, de tout ça. Alors
que... Quand vous doutez, quand vous hésitez sur quelque chose, comment vous faites? Comment vous prenez la décision? Comment vous tranchez?
Je respire et j'utilise une technique qui s'appelle la prise de hauteur.
La prise de hauteur.
Voilà, donc je me dis, ok, moi, mon petit problème, là, je suis bon, à Dijon, dans mon petit hôtel, et je m'ennuie, et je suis triste, et ma vie est nulle, ok, très bien. Alors, on va agrandir le problème. Dijon, c'est en France, les femmes, ça va, maintenant, machin, le Soudan, la planète, le Big Bang, les dinosaures, n'importe quoi. Et là, je fais, oh, bah, mon problème, en fait, ça va.
Quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console.
Exactement.
C'est ça. Il paraît que vous êtes adepte du pile ou face, c'est vrai, ça, j'ai lu ça. C'est dans quel...
Ah, mais non, mais ça, c'est une méthode que j'utilise quand vous voulez prendre une décision.
Ouais.
Et que vous savez pas. Exemple, un truc dingue, je change de vie, je change pas de vie.
Pile ou face.
Est-ce que je me marie ou est-ce que je me marie pas? Est-ce que je quitte mon mari? Est-ce que je change de maison?
Dans tous les cas, si ça doit jouer à pile ou face, c'est qu'il y a un problème.
Ah non, non, parce que vous allez voir pourquoi. Les grandes décisions importantes de votre vie, vous savez pas, vous avez peur parce que c'est important. Vous prenez une pièce, pile, je quitte mon mari, face, je reste. Vous jouez, vous regardez la pièce, et au moment où vous regardez le résultat, à ce moment-là, vous analysez ce que vous ressentez.
Ah oui. Je voulais pile ou je voulais face.
Et voilà. Et si vous êtes content, c'est que c'est la bonne décision. Et si vous dites, oh merde, j'aurais voulu que ce soit l'autre. C'est une méthode, en fait, pour tromper son propre cerveau, qui n'ose pas vous dire ce que vous voulez, parce que comme d'habitude, on compte.
Donc c'est le dixième de seconde de vérité.
Exactement.
Quoi. Ah ouais. Caroline Vigneault, la tradition, c'est l'objet dans cette émission.
Oui, on m'a dit.
Quel objet êtes-vous venu aujourd'hui?
Avec mon objet. Tadam!
Qu'est-ce que c'est?
Ah! Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est?
C'est un womanizer.
Non!
C'est le fameux womanizer.
Elle est donc venue avec un sextoy.
Exactement.
Absolument.
Mais c'est pas juste un sextoy. Society l'a nommé meilleur amant de l'année. Et couverture.
Okay. Vous confirmez?
Et je confirme. Mais ça, c'est la technologie au service du plaisir féminin. Et je vais en parler, j'en parle dans mon spectacle, j'en parle partout, parce que c'est tellement tabou le plaisir féminin, et c'est dommage. Le plaisir masculin n'est pas tabou, le plaisir féminin l'est, et je pense que ça ferait beaucoup de bien qu'on arrête de se dire que c'est mal. Oui, c'est bien de jouir, c'est bien d'aimer, et c'est bien d'avoir du plaisir.
Vous l'avez toujours dans votre sac ou vous l'avez emmené spécifiquement pour nous?
Non, je l'ai emmené pour vous.
C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Il paraît que vous faites des listes aussi. Beaucoup de listes.
Ouais.
Vous y écrivez quoi sur vos listes?
Oh bah j'ai des listes dans tous les sens. Des listes à faire. Vous allez encore hurler, mais j'ai une bucket list.
Ouais.
Donc c'est de l'anglais. Bucket, ça vient du seau sur lequel les pendus montaient pour mourir. Et donc la bucket list, c'est
ce
la
que vous
liste
avant de mourir.
Avant de mourir. Voilà.
Caroline Vigneault. On va vous emmener consulter, je crois. Vous faites des listes de mots aussi? Vous notez des mots?
Oui. Des mots, il y a des mots comme ça que j'aime. Un des derniers que j'ai noté récemment, parce que je me dis, celui-là, il faut que j'utilise plus, c'est audace.
Audace.
J'adore ce mot. Ouais. Et je l'utilise pas assez. Donc voilà, j'ai comme ça, parfois je note des mots, en me disant, tiens, ça, il faut que je l'utilise plus dans mon quotidien.
Je vais vous donner quelques mots, quelques noms, et vous allez me dire spontanément ce que ça vous inspire. La Martinique.
Kitesurf.
Ouais.
Ouais, j'y vais régulièrement pour faire du kite là-bas. J'adore cette île. Et d'ailleurs, comme je boycotte les Maldives, je dis souvent aux gens qui vont là-bas, arrêtez d'aller aux Maldives, allez en Martinique.
Vous boycottez parce que c'est un régime islamiste, qui pratique la charia.
Et qui pratique une charia violente, qui fouette les femmes qui sont violées. Mmh. Parce qu'elles ont des rapports sexuels en dehors du mariage et que c'est interdit aux femmes.
Si je vous dis balance aujourd'hui, vous pensez à quoi? Justice aussi, astrologique?
Ah, c'est drôle, parce que c'est la première fois, le premier réflexe que j'ai eu, c'était le signe astrologique, alors que j'y crois pas du tout.
Vous êtes verso, hein?
Oui, ouais. Je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai toujours cru que c'était un signe d'eau.
Ouais, parce qu'il y a verso, eau.
Il y a eau. Non, parce que c'est quelqu'un qui verse de l'eau, le symbole. Et on m'a dit que c'est un signe d'air. Donc vraiment, j'y connais rien.
Un nom à présent. Écoutez cette femme.
Marie-Claire, 17 ans, est jugée ce jour-là pour s'être fait avorter.
Car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Vous l'avez senti dans les attendus, maître ?
Je l'ai senti dans les attendus parce que Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement. Les magistrats ont semblé ne pas l'avoir entendu. C'est une des motivations de leur jugement.
C'est
Gisèle Halimi, Marie-Claire Chevalier. Gisèle Halimi, ouais, 72. Gisèle Halimi, une avocate comme Badinter qui a fait changer la loi.
Ouais. Magnifique. Elle, c'est vraiment, elle est au sommet de votre admiration, hein, j'ai l'impression.
Ah ouais, oui. Parce que là, dans le spectacle, et je parle de 72, la loi de l'avortement, mais elle a aussi défendu deux jeunes Belges qui s'étaient fait violer pendant plus de 5 heures au Cap d'Agde. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, le viol est un crime, parce qu'à l'époque, c'était qu'un délit. Et le procureur, à l'époque, au procès, avait quand même soutenu un viol qui dure 5 heures. Ça veut quand même dire que c'était pas vraiment un viol et que les filles étaient d'accord. Mmh. On vient de là, hein. Donc, en 1980, voilà, le viol va devenir un crime en France grâce à Gisèle Halimi.
Je trouvais que c'était compliqué de passer une heure avec vous sans parler au moins une fois de Gisèle Halimi. Si je vous dis liberté, égalité...
Sororité.
Facile. Oui. Vous cédez à la facilité. Là.
Évidemment. Non, humanité. Voilà. Parce que sororité, ça s'oppose à la fraternité. Et je trouve que c'est aussi ridicule. En fait, j'aime la sororité, j'aime la fraternité, mais au-delà de ça, j'adore l'humanité. Mmh. Je préfère... j'aime les animaux, j'ai aucun problème avec. Et c'est pas mon combat. Parce que j'aime les humains, en fait.
Ouais.
Et je pense qu'on devrait vivre dans le respect avec les animaux, mais j'aimerais qu'on s'occupe vraiment des êtres humains.
Pour finir, un truc de bonhomme, si je vous dis vroom vroom.
Ah ben, moi j'adore les voitures, moi. J'ai une super voiture qui fait vroom vroom.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais vous êtes genre à rouler vite, à...
Ah non, mais je me transforme en chartière,
ah ouais,
en volant. C'est une horreur. Non, vraiment, j'aime bien... En fait, je déteste l'incivilité. Donc, il n'y a rien de plus qui m'énerve que quelqu'un qui tourne sans mettre son clignotant. Donc, autant vous dire, je passe ma journée à m'énerver quand je conduis dans Paris. Mmh. En plus, je suis en scooter. C'est très dangereux de tourner sans mettre son clignotant. Voilà, je le dis à tous les gens qui ont des véhicules motorisés.
Je crois qu'il n'y aura rien après ça. Merci d'être venue dans Hors Piste, Caroline Vigneault. Merci à Marie Mériel à la réalisation, Charlotte Leblou à la préparation, Magnon Rax à la mémoire vive et à Valérie Lavalard aux manettes. Prochain Hors Piste, ce sera dimanche prochain. Et dans Hors Piste, là encore, c'est une tradition, c'est comme l'objet, donc je redoute le pire. Le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est donc à vous, Caroline Vigneault.
Merci pour ce pur moment de bonheur. Avant de mourir, je me souviendrai que je suis venue ici avec vous et c'était vraiment chambé.
Merci, Caroline Vigneault.